Le journal Loïc Barrière. L'ONU réclame une enquête après la mort de 19 enfants palestiniens lors des récents bombardements israéliens dans la bande de Gaza. 2 ans après l'explosion du port de Beyrouth, la justice libanaise ordonne la saisie provisoire des biens de 2 anciens ministres. SOS Racisme a diffusé une vidéo montrant des pratiques discriminatoires à l'entrée de plages privées du sud de la France. Entretien avec le président de l'association, Dominique Sopo. Enfin, les couleurs du temps, une exposition de photos en noir et blanc colorisées à la Fondation pour la photographie de Tanger. Nous écouterons l'un des fondateurs de ce musée, Daniel Aron. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, se dit alarmée par le nombre d'enfants palestiniens tués lors des bombardements israéliens contre Gaza. 19 enfants palestiniens ont été tués entre vendredi et dimanche. Elle réclame une enquête pour que les responsables rendent des comptes. Au total, depuis le début de cette année, 37 enfants palestiniens ont été tués. Au Liban, la justice a ordonné la saisie temporaire des biens de 2 députés soupçonnés d'être liés à l'explosion du port de Beyrouth il y a 2 ans. Membres du parti Amal, ils ont dirigé le ministère des Finances et celui des Travaux publics et des Transports. Les 2 hommes avaient déposé 20aine de plaintes contre le juge Tarek Bitar pour entraver l'enquête. Le Liban, où une prise d'otage s'est déroulée dans une banque de la rue Hamra à Beyrouth, un homme a réclamé son épargne en menaçant de brûler l'établissement. Au Liban, les déposants n'ont quasiment plus accès à leurs avoirs. Conséquence de la sécheresse en Somalie, il y a actuellement 1 million de personnes déplacées dans le pays. L'ONU et le Conseil norvégien pour les réfugiés tirent la sonnette d'alarme. 7 millions de Somaliens sont exposés à un risque de famine. En France, SOS Racisme a diffusé une vidéo tournée en caméra cachée où l'on voit des couples maghrébins et noirs se voir refuser l'accès à des plages privées alors qu'un couple blanc est accepté. Des testings qui ont eu lieu à Marseille et Juan-les-Pins. On écoute le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Nous avons effectivement mené des opérations de testing sur le sud de la France, hein, sur le pourtour méditerranéen, et notamment nous avons montré que les plages privées, pour une partie d'entre elles, pratiquaient la discrimination à l'entrée, ainsi évidemment que les bars de nuit et les discothèques dans des testings plus classiques et que nous menons depuis plus longtemps. Et ce que nous avons tout simplement montré, hein, cette discrimination, c'est que selon qu'on était blanc, noir ou arabe, eh bien, on n'était pas traité de la même façon, et que notamment les plages privées, à Juan-les-Pins, puisque c'est notamment là que ça s'est déroulé, ainsi qu'une plage privée sur Marseille, eh bien, refusaient soit les noirs et les arabes, alors que les personnes blanches, elles, étaient acceptées sur les plages. Les testings, ils ont plusieurs fonctions. Il y a évidemment une fonction de pression par l'opinion publique, qui évidemment, à juste titre, est quand même largement scandalisé par ce type de comportement. Il a aussi une vertu pédagogique de rappel de la loi pour faire en sorte que les gens soit réfléchissent à leur pratique, soit se disent « attention, peut-être que le coup d'après, ça va me tomber dessus et ce sera moi qui risque d'avoir des ennuis puisque il y aura des suites judiciaires évidemment à ce testing pour les plages qui se sont rendues coupables de discrimination. » Mais de façon plus fondamentale, je pense que ce que nous attendons, c'est que les pouvoirs publics soient au rendez-vous et mettent un terme à ces pratiques qui, de fait, sont très largement tolérées dans notre pays. Le fait que des boîtes de nuit encore aujourd'hui ou des bars, le fait que des plages privées puissent se permettre ce genre de comportement, c'est parce qu'il y a une défaillance évidente de la réponse des pouvoirs publics, que ce soit la justice qui condamne extrêmement peu ou que ce soit les préfectures qui ne sont pas au rendez-vous lorsque de tels faits sont dénoncés. Quand on parle de plages privées, on parle du domaine public de l'État. Hein. On parle de professionnels qui ont obtenu des concessions auprès des préfectures. Donc que font les préfectures lorsque on leur dit, on leur montre, parce que c'est filmé, qu'il y a des filtres, qu'il y a des sélections sur une base ethnique par ailleurs, qui sont pratiquées à l'entrée des plages privées. Est-ce que les préfectures vont supprimer les concessions, vont les revoir? Est-ce qu'elles vont convoquer les professionnels de ce secteur? C'est encore une fois au pouvoir public, j'allais dire, de rappeler ce qu'est la loi. On est dans un état de droit et la loi, elle doit être appliquée de façon pleine et entière, sans que l'on soit obligé, normalement, de recourir à ce type d'opération.
Qu'est-ce que vous allez demander précisément à la ministre déléguée en charge de la diversité et de l'égalité des chances, Isabelle Rome, que vous allez rencontrer à la rentrée?
Oui, alors j'ai déjà rencontré Isabelle Rome il y a quelques semaines. Hein, on a parlé de la question des discriminations. J'en ai parlé aussi avec Olivier Klein, le ministre de la Ville et du Logement. Ce que nous allons leur demander, puisqu'il y a un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT qui va être élaboré dans les semaines qui viennent, c'est que, en matière de discrimination, il y ait dans la loi des clauses qui permettent de taper fortement ceux qui sont les auteurs de discrimination. Parce que le problème des discriminations, c'est que ça n'est pas des délits comme les autres. En général, vous ne savez pas que vous avez été victime de discrimination. Quand vous vous faites voler votre voiture, vous savez que vous êtes fait voler votre voiture. Lorsque vous êtes discriminé, bien souvent, vous ne le savez pas, vous n'en avez pas la preuve, c'est plutôt une forme de sentiment, mais par rapport auquel vous êtes assez démuni. C'est pour ça qu'il y a une action spécifique à mener par rapport à celles et ceux qui sont en situation de discriminer avec des peines beaucoup plus fortes. Et le deuxième élément, c'est de faire en sorte que l'État, à travers la puissance administrative qui soit la sienne, utilise tous les outils à sa disposition pour mettre un terme à ces pratiques. Comment se fait-il que des boîtes de nuit, que des bars, que des plages privées puissent se permettre de filtrer leur clientèle? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, elles ne risquent pas grand-chose. Imaginez, prenez un cinéma. Quand vous arrivez au cinéma, comment dire, tant qu'il y a des places, on vous laisse rentrer. Il n'y a aucune sélection à l'entrée dans un cinéma, sauf s'il y a une limite d'âge posée par le film. Et il ne viendrait à l'esprit, sans doute, d'aucun professionnel du cinéma de filtrer la clientèle à l'entrée de son cinéma. Pourquoi ce serait possible sur les plages privées, dans les bars et dans les boîtes de nuit notamment, et quasiment au vu et au su de tout le monde? C'est parce que ces professionnels savent que de toute façon, il y a une forme d'acceptation de ces pratiques. Eh bien, c'est aussi à cela qu'il faut mettre un terme.
Est-ce que vous encouragez les employés de ces établissements à témoigner contre leur patron? Est-ce qu'ils peuvent être considérés d'une certaine façon comme des lanceurs d'alerte?
Ah, de toute façon, les employés de ces établissements, s'ils témoignent de pratiques discriminatoires qui sont des pratiques illégales, évidemment, de toute façon, seront protégés du fait qu'ils dénoncent une illégalité, puisque un patron n'a pas le droit, évidemment, de demander à ses employés de commettre des actes illégaux. Et je ferai remarquer que de façon plus générale, au-delà de la question de est-ce qu'il y a discrimination raciale ou pas, le simple fait de ne pas vendre un service à des personnes qui viennent pour l'acheter constitue un délit, ça s'appelle un refus de vente, quand bien même ce serait sur un autre critère que le critère de l'origine ethnique. On n'a pas le droit, lorsqu'on est un professionnel et qu'on offre un service, de sélectionner la clientèle. C'est comme ça, c'est la loi, et bien cette loi doit être appliquée, et évidemment, les employés qui travaillent dans des établissements et dans lesquels on leur demande de faire de la sélection de clientèle telle que cela se voit dans trop de lieux, et bien doivent témoigner, parce que évidemment c'est aussi le silence, c'est aussi l'absence de témoignage qui permet et bien au patron à compter sur finalement l'omerta afin de pouvoir poursuivre des pratiques qui sont quand même totalement honteuses en 2022.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Enfin, la Fondation pour la photographie de Tanger au Maroc propose une exposition sur la photo noir et blanc colorisée intitulé « Les couleurs du temps ». L'exposition peut se visiter jusqu'au 30 novembre. Entretien avec le photographe Daniel Aron. Il a créé la fondation avec son épouse Françoise.
Je suis photographe, absolument. J'ai travaillé pendant longtemps bien à Paris. Et nous avions, ma femme et moi, construit une maison à Tanger il y a 25 ans à peu près. Et on partageait notre temps entre Tanger et Paris. Et ma foi, l'idée m'est venue peu à peu de créer quelque chose, une structure. La photographie au Maroc se développe énormément. Il y a un très bon niveau. Et par conséquent, ça nous semblait avoir du sens de créer une structure qui puisse à la fois montrer des images, encourager la photographie marocaine, le tout à Tanger, c'est-à-dire dans le nord du Maroc. Pourquoi le nord du Maroc? Bah, tout simplement parce que le développement culturel jusqu'à présent était beaucoup plus puissant à Casablanca, à Rabat, à Marrakech notamment, et il fallait, tenter de rééquilibrer avec Tanger, c'est ce que nous faisons.
Vous avez d'abord exposé des jeunes photographes marocains. Vous pouvez nous parler de cette première exposition?
Eh bien, en 2018, on a créé cette fondation et en 2019, on a fait une première exposition jeune écriture marocaine, et on a rassemblé avec Marie Moignard, qui était la commissaire de l'exposition, un certain nombre de talents comme Sef Kousmat, comme Mehdi Mariouche, comme Céline Cros, comme Fatih Bazan-Asseri, etc. Et nous avons montré le travail de ces jeunes photographes, jeunes, donc quand même des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Voilà.
La Fondation propose également une exposition permanente.
On travaille sur une sorte de binôme. Nous avons une collection permanente et des expositions temporaires. Donc quand nous décrochons notre exposition temporaire, nous accrochons notre collection permanente. Voilà. La collection permanente, c'est un ensemble d'images que nous avons rassemblées au fil des années et que nous enrichissons régulièrement par des acquisitions auprès de photographes marocains, mais également de photographes internationaux. Le but de la Fondation, c'est d'offrir un panorama de la photographie contemporaine et également ancienne, parce que nous avons un département de photographie ancienne, c'est-à-dire des photographies qui en général sont datées au titre du 19e ou du début du 20e siècle. Voilà.
Alors, vous avez été confronté au Covid, ce qui vous a empêché de poursuivre votre activité en 2020 et 2021. Et en 2022, vous avez inauguré une nouvelle exposition temporaire, « Les couleurs du temps », qui se poursuit jusqu'au 30 novembre. Quel est le thème de cette exposition?
Ah bah écoutez, c'est un thème formidable parce que, tout a démarré avec une donation que la Fondation a reçu il y a un an environ. Et cette donation est constituée par une quarantaine d'images qui ont été offertes par Philippe Lorrain. Philippe Lorrain, c'est l'homme de Tang Jazz, qui est un festival de jazz formidable à Tanger. Et Philippe nous a dit, bah, écoutez, finalement, j'ai trouvé ces photos chez un broc, je pense qu'elles seront beaucoup mieux à la Fondation. En fait, ces photos, c'était des portraits de gens qui ont été exécutés à Tanger, chez des photographes que nous n'avons malheureusement pas pu identifier et qui ont été exécutés dans les années 1950, 1960, à cette époque-là. Et ce sont des photos en noir et blanc qui, comme on le faisait beaucoup à cette époque, étaient ensuite colorisées. Voilà. Donc ça a été le point central, le point de départ de notre exposition. Et puis, nous nous sommes dit, bon, on va exposer ces photos, mais il faut peut-être enrichir le sujet et nous avons donc cherché et trouvé des photographies beaucoup plus anciennes, photographies du 20e, du 19e siècle, certaines nous appartenaient. Et puis, toujours avec Marie Monia, nous avons également adjoint des photographies tout à fait contemporaines d'artistes marocains, d'artistes français, qui pratiquent la même vision artistique, c'est-à-dire que ils prennent les photos en noir et blanc et ils les colorisent. Donc on a un ensemble qui est très 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 intéressant parce qu'on montre, on explique et on dit, ben vous voyez, c'est quelque chose qui en fait remonte au début de la photographie.
Daniel Aron de la Fondation pour la photographie de Tanger. Cette édition est terminée. Retrouvez nos émissions et nos journaux sur radioorient.com. Merci de votre fidélité.